Tu sais, bientôt, c'est l'élection des délégués dans la classe. Ouais, c'est l'élection du délégué. Eh ben, c'est... Ils sont bizarres, hein, ceux qui se présentent, tu sais. Ouais, il y en a une, elle sourit tout le temps et elle met que des pulls tout blancs. Et il y en a un, il est tellement petit qu'il est tout énervé. D'ailleurs, il prend tous les bâtons qu'il y a dans la cour de l'école et il arrête pas de taper Mohamed et Mamadou. Et tu sais ce qu'ils ont fait l'autre jour aussi ? Ils ont demandé à celle qui est toujours en blanc et qui sourit tout le temps, ils lui ont demandé ce qu'elle avait dans sa trousse, dans son cartable et tout ça et tout ça. Eh ben, c'est les élections des délégués. C'est les élections du délégué en 2007. Ouais, tu sais. Et voilà.
Bonjour, c'est Jacques dans les Côtes d'Armor. Simplement pour dire, au moment où on parle beaucoup des justes, et effectivement à juste titre, rappelez le livre de Pierre Fayolle, Les deux France, 1936-1945, qui évoque très bien cette période, et en particulier ce qui a été fait au Chambon-sur-Lignon. Et puis dire que les justes, il y en a encore aujourd'hui. Et je pense en particulier à ceux qui hébergent les sans-papiers. On est tout à fait dans le même contexte. Au revoir.
Bien, merci beaucoup, Daniel, aujourd'hui, pour ton émission. J'étais très contente et je voudrais te féliciter. Parce que quand la liberté d'expression n'existe plus, ce n'est pas du tout facile. Et je sais bien de faire ce que tu fais. Un petit peu en hauteur, comme tu l'as fait aujourd'hui avec Edgar Morin, c'était très bien. Et puis un peu plus bas, en passant un auditeur qui a essayé de dire quelque chose pour Dieudonné. Et ce n'était pas facile non plus. Et puis voilà, je voulais te dire que je te remercie de ne pas aboyer avec les loups et que c'est très difficile en ce moment car il faut faire, tu le sais très bien, très attention à la meute. Je t'embrasse.
Écoutez, j'étais extrêmement contente d'écouter cette émission où Edgar Morin donc a pris la parole. Je voulais le remercier et lui dire que, je sais pas, il s'est présenté comme étant minoritaire. Je suis pas sûre que ce soit si vrai. Je pense que ceux qui s'expriment le plus et qui ont fait en sorte qu'il ait été condamné en appel, même si après la Cour de cassation n'a pas confirmé donc cette décision. Je pense qu'on est beaucoup, moi je me sens, quand il a parlé de judéo-gentil, je sais peut-être pas juive, mais c'est mythe aussi d'origine, même si je me reconnais pas, je me sens plus universelle, universaliste. Et je me suis reconnue dans tout ce qu'il a dit, je me suis sentie très proche, ça m'a fait une espèce de souffle, une espèce de bouffée d'air. Tant mieux que des gens comme ça existent et qu'ils ne se sentent pas seuls, parce que je pense qu'on est vraiment très très nombreux et qu'il y en aura de plus en plus, et que ceux qui font pression pour nous enfermer dans une identité, dans une communauté, je pense, sont peut-être puissants, mais pas forcément, c'est pas forcément qu'ils vont gagner. Je pense qu'il faut garder l'espoir.
Oui, bonjour. Je voulais dire que les propos d'Edgar Morin étaient très intéressants, mais quand il a dit qu'on avait plus de liberté pour parler en Israël qu'en France, j'aurais aimé que vous lui demandiez ce qu'il pensait de la loi Guesso. Et j'aimerais savoir aussi ce que pensent les auditeurs de là-bas, si j'y suis, de cette foutue loi qui nous empêche qui nous punit très sévèrement quand on prononce certaines choses. Et je voudrais juste vous dire cette phrase de Socrate que je trouve très bien. « Ne crois rien de ce qu'une loi te prescrit de croire. » Voilà, merci, à la prochaine.
Bonjour, le comité d'Anthony pour une paix juste et durable au Proche-Orient organise le samedi 20 janvier, donc ce samedi, à 15h30 à Anthony, une conférence débat avec la participation de Richard Wagman de l'Union juive française pour la paix et de Denis Sieffert, directeur de Politis. Donc si vous êtes du côté d'Anthony, Massy, n'hésitez pas à passer. Donc samedi 20 janvier à partir de 15h30, salle Saint-Jean, donc c'est à l'église Saint-Jean, 1 square Atlantique, 92-160 Anthony, et vous prenez le RERB, l'arrêt c'est les Baconnets. Merci.
deux choses. Edgar Morin envisageait une vérité toute relative quant à Einstein et Freud et leur antisionisme. Si je me réfère à Pourquoi la guerre, Henri Vache-Poche, échange de correspondance entre Einstein et Freud, seul Freud, dès avril 33, écrit noir sur blanc que la création d'un État judaïque est une grosse erreur de l'histoire qui est en train de s'écrire. Einstein, à ce moment-là, lui envisage la problématique autrement. Je vous encourage à lire ce livre qui est très nourrissant. Et deuxième point, je vous appelle de Chamonix-Mont-Blanc où l'isotherme 0 degré monte jusqu'à 3000 mètres en ce moment. Or, le week-end du 27 janvier 2007, la municipalité abrite manifestations privées, certes, mais sur un espace collectif pour les stylos machins qui font venir de la glace du nord de la Suède en poids lourd pour fabriquer barres et écrans pour y projeter le prestige de leur marque. Oui, oui, vous avez bien entendu, de la glace du nord de la Suède en poids lourd. Coluche disait, si on confiait le Sahara aux technocrates, ils importeraient du sable. Donc, en gros, le thème, c'est « délocalisons la débâcle ». Voilà. Comme disait Pierre Dac, notre planète est éclairée au néant. Salut à tous.
Bonjour Patrick de Seine-et-Marne. Je tenais à te féliciter, Daniel, toi et ton équipe, pour la belle remontée de France Inter, 10%, vous passez deuxième, c'est extraordinaire. C'est peut-être grâce à toi. Allez, salut.
Bien sûr, bah alors. Bien sûr. Merci pour vos messages. Vous avez été très sensible à l'émission d'hier avec cet entretien avec Edgar Morin. C'était pas facile pourtant, hein, parce que, voilà, c'est des sujets quand même assez pointus. On s'est dit, oulala, c'est un peu trop intello, c'est ce qu'on se dit, nous, dans notre petit bureau. Oulala, c'est trop intello. Ben, pas du tout, ça vous a passionné. Beaucoup de très bonnes réactions, donc, autour du livre que Edgar Morin a publié récemment, Le Monde moderne et la question juive. Alors aujourd'hui, sur la question de la loi Guesso, cette auditrice qui se demandait ce que Edgar Morin pensait de la loi Guesso, je crois me souvenir que lors d'une émission que nous avions faite ensemble il y a déjà pas mal de temps, il s'était déclaré contre cette loi, considérant que, on est là pour débattre, surtout quelqu'un comme lui, un intello, il est là pour débattre avec d'autres quitte à s'engueuler, mais avant de s'en remettre au juge, hein, c'est d'abord le débat, c'est le rôle des intellectuels, enfin de chacun d'ailleurs, avant d'en passer par la loi. D'ailleurs, je pense qu'il y a un rapprochement entre cette idée et la citation de Socrate, de cette auditrice. Pardon à ceux dont on ne peut pas passer les messages, on en reçoit de plus en plus, ils sont de plus en plus passionnants, intéressants, mais voilà, on n'a pas 3 heures d'émission. Hélas, donc aujourd'hui, on a osé. Ou plutôt, on va sauver oser. Qu'est-ce que c'est sauver oser? Qu'est-ce que c'est d'abord que oser? Eh bien, oser, c'est objectif, solidarité et réinsertion. Oser. Et oser, c'est à Bourg-en-Bresse, en France, dans l'Ain, et c'est une assoce qui se bat contre sa disparition, qui est menacée. Il y en a beaucoup des assos, sauf que c'est une association de réinsertion, c'est une association qui s'adresse à des publics en difficulté sociale, et tandis que certains se précipitent autour du canal Saint-Martin avec les Don Quichotte et cette chose très médiatique, eh bien, dans le reste du pays, il y a pas mal de ces associations de réinsertion qui sont en grande difficulté et voire menacées dans leur existence même. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons tenter de sauver Oser à Bourg-en-Bresse avec François Ruffin. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissé dans la boîte vocale de la basse UJC au 01 56 40 37 37.
Oh, la basse UJC, il y en a marre de vos émissions. Toujours critiqué, mais écoutez, rentrez dans le système. Regardez, la mondialisation, les 35 heures, c'est fini. Les retraites, vous n'en aurez pas, mais il faut accepter, il faut vous soumettre. Toujours en train de critiquer. Écoutez, ce matin, Jean-Marc Sylvestre, il l'a dit, bon, les patrons et lui, ils pensent que de toute façon, il faut se soumettre à la mondialisation, etc. Il n'y aura pas de retraite. Bon, mais écoutez, on l'accepte et puis c'est tout. On arrête de critiquer, de faire des émissions. Et regardez, pendant la guerre, la police française, elle s'est soumise aux nazis. Bon, c'est tout à fait normal. On a vu le résultat. Vous avez entendu le témoignage de la dame, ce qu'elle a dit. La police française, un monsieur avec un bâton blanc qui est venu chercher sa famille avec un inspecteur. Et alors, il faut se soumettre, ils se sont soumis, et voilà. Et alors, écoutez, là-bas, si j'y suis, mais vous n'avez rien compris, le système, faut se soumettre. La mondialisation, faut l'accepter. Allez, bon, c'est Jean-Pierre dans la Manche. Continuez vos émissions, c'est formidable. Et bah, je reste un auditeur fidèle.
Ah, l'ISF, ça, c'est un impôt juste et redistributif. Hein, 892 euros d'ISF pour Nicolas Sarkozy, 1200 et quelques euros pour les Hollande, et je crains que Bill Gates, lui, ne doive verser 2248,52 €. Cela s'appelle le pourlichon mendiant, l'ISF.
Bonjour à tous, je suis une AMG toujours aussi révoltée. Je voulais dire que je suis entièrement d'accord avec la personne qui a téléphoné hier à propos du rassemblement de Nicolas Sarkozy. Je suis comme elle, je suis âgée, j'ai connu tout ça, enfin j'ai 86 ans, et malheureusement, les rassemblements de Pétain et autres, et ça m'a fait penser immédiatement à ça. Et quand elle a cité une journée particulière, je trouve que c'est vraiment ce qu'il fallait dire. Je suis bien d'accord avec elle, c'est pourquoi je voulais le dire aujourd'hui, et puis j'aurais bien voulu aussi pouvoir signer la pétition pour José Bové, parce que moi, je n'ai pas l'Internet. Et alors, on se sent un peu largué quand on entend. Il y a beaucoup de choses qu'on aimerait bien signer, mais www, voilà, ça nous concerne pas. Bon, ben, je vous remercie, hein, continuez, vous. On a vraiment besoin de vous, de plus en plus, avec tout ce qui nous attend. Allez. Je vous embrasse tous, au revoir.
Là, je suis en train de gonfler des ballons, quoi, c'est au niveau de la manifestation, quoi, c'est... Et là, on est dans un foyer, et franchement, le foyer, ben, franchement, on n'a toujours pas une nouvelle.
C'est écrit quoi sur les ballons?
Je vais vous le montrer, quoi, parce que franchement, moi, je sais pas trop lire.
Alors voilà. C'est marqué voilà. Il faut sauver Osé.
Voilà, il faut.
C'est le foyer où t'es, c'est ça?
Voilà.
On va les envoyer dans la nature après.
Salut, c'est Daniel Mermet. Là-bas, si j'y suis avec François Ruffin, il faut sauver Osé.
Flight number 2. Arriving from.
Qu'est-ce qu'on dit au 115?
Ah merde, je préfère dormir dehors.
Tiens, alors,
avant, j'avais un boulot, mais à 57 ans, pour retrouver du boulot.
Ça fait longtemps que vous êtes venu au phare?
Oh oui, moi, depuis 2001, moi. J'ai resté 6 mois.
Je suis ancien résident. J'ai plongé dans l'alcool, j'avais 13 ans. Je m'en suis sorti, j'avais 37 ans.
Mon mari me tapait et tout. C'est Carole donc, qui m'a accepté, qui m'a dit viens te cacher, tout ça. Je suis bienvenue au phare. Et heureusement qu'on a ce foyer-là.
J'ai demandé un accueil d'urgence. Je me suis présenté.
Qu'est-ce que tu lui dis, Aline, au 115?
Moi, j'aurais voulu me marier avec un Français. Mes parents m'ont forcé, ma mère a dit à mon père, marie-la, sinon... elle va partir.
J'ai quitté parce que mon propriétaire a vendu tout son corps d'immeuble et les garages à un autre qui voulait casser tout. Donc, quand j'arrivais en fin de bail...
Et je leur en veux. Je leur en veux. Je leur en veux beaucoup.
Je suis les ACDIS. Après, j'étais en fin de droit et maintenant, je suis au RMI. C'est le circuit habituel.
Tu sais comment on fonctionne? Tu découvres pas ça d'aujourd'hui?
Là, je déménage tout pour accéder au nouveau logement. C'est tout ce qui me reste de moi-même, de ma femme. Il ne reste plus que ça.
Tu vas te griller, mon fils, tu vas te griller ici. T'as pas intérêt à te griller ici.
Mon mari, c'est la maladie. Avant, il était routier international et par les heures qu'il a cumulées, ben, il a fait de la petite déprime qui s'est tournée en
bonne nuit.
En catastrophe.
Bonne nuit.
Et moi, ma vie, elle a été foutue comme ça. Tous mes droits sont perdus. C'est ça, mon histoire. Mon histoire, c'est ça.
Presque.
Qu'est-ce que tu vas dire?
Eh oui, je suis moins vieux que Charles, mais enfin...
Tu prendras la voiture, ça va faire les 300. Toi, t'es pas de parole, toi. T'es comme Chirac, toi.
Oh, mais Chirac, il est hors concours, là.
C'est pour cela, c'est bon. Alors, je compte sur toi, je vais le temps de serrer la ceinture. À cause de toi, tous les jours, je perds un kilo.
Tu vois, on va plus
rien rester. Je vais trouver la voiture.
un petit bouquet de galères diverses et variées, les cabossés, les dérapés, les déraillés, lourds ou légers. Sans doute que depuis la nuit des temps, les sociétés produisent et les humains produisent ce qu'on appelle aujourd'hui de l'exclusion. Sauf qu'aujourd'hui, la différence, c'est que la fabrique à exclusion marche vraiment à fond. À fond, et on voit cette exclusion, puisque c'est le mot consacré, chaque jour augmenter. Chaque jour, les inégalités augmentent et les galères avec. Et là, on est, je le disais en commençant, à Bourg-en-Bresse, dans une et avec une association qui s'appelle donc OSER, Objectif Solidarité et Réinsertion, dont le but est l'hébergement, l'accueil et le soutien à tous les publics en difficulté sociale. Et je le disais, cette association, en ce moment même, à l'heure où je vous cause, eh bien, est en train de se battre pour sa survie. Ils manifestent en ce moment, ils sont à Bourg-en-Bresse dans un square avec des ballons, et je pense qu'ils sont d'ailleurs en train d'écouter si j'ai bien tout compris l'émission en direct, et on les salue et on les encourage, on est avec eux. Pourquoi? Parce que ils sont menacés. C'est une association assez importante, ancienne, qui a plus de 30 ans et assez importante, qui a une vingtaine de salariés, de travailleurs sociaux, et qui ont plusieurs palettes à leur d'activité. Il y a un centre d'hébergement et de réinsertion sociale qui s'appelle Phare, foyer d'accueil et de réinsertion, avec une soixantaine de places. Il y a un service d'accueil d'urgence pour des familles en mobile home. Il y a un hôtel d'accueil qui s'appelle le Temps des Cerises et qui compte 23 chambres. Et voilà, toute activité, pas mal de centres de ce genre en France, pour lutter contre l'exclusion, favoriser l'intégration, l'accès aux droits, travail, logement, santé, etc. Et qui accueille donc ces publics qui peuvent être des petits problèmes passagers ou au contraire des galères plus lourdes. Or, cette association essaye d'attirer l'attention sur elle pendant que on se focalise et toute la lumière, toutes les caméras sont à Paris sur le canal Saint-Martin où l'était ces jours derniers. Pendant ce temps-là, ces associations, et celle-là en particulier, est menacée de disparition. C'est une histoire assez intéressante et un petit peu compliquée. C'est que cette association, en fait, travaille avec une certaine optique, certaines idées, sa façon de travailler, et ça plaît pas tellement à la tutelle, c'est-à-dire, en l'occurrence, eh bien, à la DAS, c'est-à-dire à l'État, puisque c'est l'État qui subventionne ces associations et qui subventionne celle-là. Donc, il y a une galère qui dure depuis déjà un certain temps, réduction de budget, on n'est pas d'accord sur la façon de faire. Et donc, voilà, eh bien ça manifeste avec ceux qui passent dans ces centres. Pourquoi pas? Pourquoi est-ce que ce serait que les gestionnaires et les travailleurs sociaux d'un côté, et puis le public qui est concerné, qui se mettrait, lui, à part? Non, c'est tous ensemble qui luttent pour la survie de cette association. Alors ça nous donne l'occasion de comprendre un petit peu tout ça, de découvrir pour beaucoup d'entre nous ces mondes, et puis les problèmes que peuvent avoir ces associations, et puis évidemment connaître un peu mieux, rencontrer d'un peu plus près ceux qu'on y rencontre et qui sont là parce que des galères de chômage, des galères de logement, des histoires de violence conjugale, il y a aussi des problèmes d'exil politique ou économique, il y a aussi les sortants de prison, les sortants d'hôpitaux psychiatriques, des gens qui sont en rupture familiale ou qui sont en mal de vivre d'une façon générale, et qui passent dans ces endroits, qui y restent plus ou moins longtemps. Et on va voir comment dans ce centre on a une certaine conception des relations avec les passagers et les gens en galère qui passent là quelques jours ou davantage. C'est jusqu'à 16h. C'est là-bas que j'y suis. Sauvons oser.
Dans les villes américaines, les pauvres sont partout. Ce n'est pas très beau, c'est le bazar. Comment est-ce que vous avez réussi à inciter les pauvres à quitter les centres-villes pour aller vivre en banlieue?
Ce que vous appelez les pauvres, je suis désolé de vous dire, c'est des gens qui gagnent un peu moins d'argent. Mais comme ils gagnent moins d'argent, ils ont les mêmes logements que les autres, sauf que eux les payent moins cher. Et ils vivent très bien. Nous n'avons pas misère. Il n'y a pas de ce que vous appelez les pauvres. Les pauvres,
bien
les
sûr.
Pauvres. Il y a quelques sans domicile fixe qui, eux, ont choisi vivre en marge de la société. Et même cela, croyez-moi, on s'en occupe, il y a des foyers d'accueil, parce qu'en hiver, en France aussi, il fait froid et il n'est pas question de laisser dehors de les gens qui sont dans la misère.
Qui c'est qui fait des morpions pour toucher les allocations? Qui c'est qui se plaint tout le temps? Qui c'est qui a mal aux dents? Qui c'est qui mange des sardines avant d'aller à l'usine?
Les salauds de pauvres qui habitent en bas de chez moi, à croire qu'ils le font exprès. S'ils sont pauvres, c'est qu'ils aiment ça.
Qui c'est qui est pas productif? Qui c'est qui est pas compétitif? Qui c'est qui comprend rien à Maastricht, Genève, Berlin? Qui c'est qui consomme pas assez? Qui c'est qui a pas l'immobilier? Qui c'est qui a le scorbut? Qui a pas de golden parachute?
Les salauds de pauvres qui habitent en bas de chez moi, à croire qu'ils le font exprès. S'ils sont pauvres, c'est qu'ils aiment ça.
Qui c'est qui vit à crédit? Qui paye tout deux fois son prix? Qui c'est qui a plus un rond? Qui fait des chèques sans provision? Qui c'est qui fait rien?
Habitent en bas de chez moi, à croire qu'ils le font exprès. S'ils sont pauvres, c'est qu'ils aiment ça.
Nous leur donnons des asiles, on leur donne à manger, on les lave, on leur donne tout ce dont ils ont besoin. Mais ce sont des gens relativement rares qui ont décidé une fois pour toutes qu'ils étaient en marge de la société, qu'ils ne voulaient pas travailler ou qu'ils avaient été rejetés par la société.
Oh! Les résidents commencent à manger.
Tout le monde a bien compris que demain midi, il n'y a aucun repas qui sera servi ici.
On a bien dit qu'à partir de 10h30, ça sera un service minimum. Donc, il y aura plus de démarches administratives. On prendra plus les appels téléphoniques ni rien, puisque le salarié qui sera ici sera en grève. Et après, on vous propose à partir de midi, de venir sur le square où on distribuera des sandwichs qui sont prévus avec, un repas froid qui est prévu. Voilà.
On a pris du jambon halal. Hein.
Voilà. Alors, on peut passer à vos questions.
Pour résider chez vous, moi, j'ai souffert. Je suis allé à Mâcon, Chalon-sur-Saône. Bon, je suis venu à Bourg. J'étais chez eux, ils m'ont refusé mon hébergement. Et maintenant, on est habitué à vous. On risque d'être... Ça pourrait, dans 2 mois, ils nous jetteront à la porte. Ou ils commencent à choisir qui c'est le premier à jeter à la porte, déjà. Oui. Ben, c'est de là on a peur, nous.
Alors, par exemple, la question que pose El Hachmi, c'est qu'est-ce que ça va être votre sort après? En imaginant que le préfet ne nous répond pas très bien demain, on fait 3-4 jours de grève, et après, qu'est-ce qui devient du foyer? Le sort vraiment des résidents ici et des futurs résidents n'est pas complètement en jeu. Parce qu'il ne faut pas se faire trop de soucis, la DAS ne fermera pas le foyer. Si jamais elle décide de ne pas aller dans notre sens... elle mettra une autre association à la tête du foyer. Ouais. Voilà. Mais vous ne serez pas à la rue. Voilà. Vous n'y serez pas.
Ils veulent bien encore de vous, mais plus de nous.
Oui, d'autres auditeurs. C'est une lutte un peu d'idées sur... sur comment on gère le foyer. Il faut vraiment savoir ça. C'est pour ça que vous, votre place n'est pas en jeu, parce que vous serez accueillis, ce n'est pas le problème. Mais le vrai problème, c'est la façon qu'on a de gérer le foyer. Pour ceux qui ont participé au débat qu'on avait organisé l'autre fois, vous avez vu qu'on avait montré un film sur Notre-Dame des Sans-Abri, qui est une grosse association à Lyon. Ce qui était très grave dans ce film, c'est qu'on se rendait compte, par exemple, que les gens n'étaient pas accueillis la journée. Hein. Ils étaient dans un centre de nuit et la journée, ils étaient dans la rue. Ils revenaient à 19h le soir et ils repartaient à 8h le matin. On sait qu'en France, il y a beaucoup, beaucoup d'établissements comme ça, surtout dans les grandes villes. Ça, c'est une chose que nous, par exemple, nous avons toujours refusée. Mais quand vous ouvrez un foyer comme ça, tout le temps, sans qu'il soit fermé entre 9h du matin et 18h, ça coûte de l'argent à l'État. Et il faut savoir que depuis des années, l'État a décidé de réduire les dépenses sociales. Et que ça en fait partie. Donc ils nous ont toujours demandé d'être un peu moins présents. Ça fait 15 ans qu'ils le demandent. Mais le petit problème, c'est qu'on n'a jamais accepté. Donc je finis juste ça. Le conflit qu'il y a entre la DAS, le préfet et nous-mêmes, c'est qu'ils auraient aimé que petit à petit, sur 15 ans, on ouvre un peu moins le foyer, on mange un peu moins ensemble. Ils nous avaient demandé, par exemple, qu'on ne mange plus ensemble le dimanche. Ça fait 15 ans qu'ils nous l'ont demandé. Nous, on a toujours refusé. Parce qu'on pense aujourd'hui qu'il y a encore plus de pauvreté qu'il y a 15 ans. Il y a de plus en plus de gens qui ne peuvent pas vivre normalement. Alors c'est quand même scandaleux. C'est quand même scandaleux dans un pays riche où la pauvreté ne fait que s'aggraver. On demande à des gestionnaires de réduire les repas, l'ouverture et le confort. Alors qu'on sait quand même, puisque vous habitez là, que le confort est loin d'être génial. Voilà. Donc c'est ça le conflit. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres inquiétudes?
À table, s'il vous plaît.
D'accord, parfait.
À table.
Et bien voilà, vous avez compris en quoi consiste la lutte d'oser et en quoi ça regarde... En fait, on va tout de suite sur le fond avec ce qui vient d'être expliqué. Ou bien on gère d'une façon tout à fait technocratique, disons, ces cas sociaux, ce qu'on appelait des cas sociaux, et puis, bon voilà, on met ça à l'écart, et puis on gère ça, et puis voilà. Et j'exagère un petit peu, bien sûr. Et puis, il y a la façon de prendre en charge ces détresses passagères ou durables, telles que un centre comme celui-là le conçoit. Et ces deux visions, effectivement, très différentes, c'est qui se traduisent actuellement, politiquement parlant, par des réductions des dépenses publiques. Ça a été d'abord dans le domaine de la santé, et puis maintenant, eh bien, c'est le secteur social qui est touché par ces réductions budgétaires, et c'est contre cela que se battent ceux d'oser. Vous avez vu, c'est aussi bien les résidents que les travailleurs sociaux de ce centre. Alors, qui vient dans ce centre? Eh bien, voilà un exemple.
Bonsoir.
Je peux laisser mes bagages
oui.
Là
oui,
c'est
bien,
je vous enferme à l'extérieur.
Voilà, et puis...
Et j'ai fait une petite cigarette là.
Ah bah voilà.
Merci.
Vous voulez une cigarette?
Je suis gênée, en plus je connais personne. Je viens d'arriver. Donc c'est la découverte aussi pour moi, là, ce soir. Voilà, j'arrive à l'instant. Voilà.
Et qu'est-ce que vous venez faire à Bourg-en-Bresse?
En fait, il y a une formation qui me plaît pour être aide médico-psychologique. J'ai essayé de trouver justement ce genre de centre d'accueil. Et il se trouve qu'ils étaient tous complets, qu'il y avait pas mal de gens encore dans les rues. Et ça a été le seul centre qui a pu m'accueillir aussi rapidement. C'est pour ça que j'ai saisi l'occasion pour monter. Et je sais que, bon, il y a d'autres personnes qui attendent, hein, parce que j'ai eu la dame au téléphone qui m'a dit que si je rentrais pas aujourd'hui, demain, il y avait une autre personne qui pouvait prendre ma place. Ça, c'est sûr. J'étais responsable d'un centre d'enseignement de français langue étrangère pendant 8 ans. Et il se trouve que la dernière année, on a eu beaucoup de mal à avoir les subventions. Et dans cette association, j'ai travaillé quand même 4 ans en tant que bénévole et les 4 dernières années en tant que salarié. Donc je ne voulais pas de nouveau me retrouver en tant que bénévole. Je pense qu'il faut évoluer à un moment donné pour comme tout le monde, pour manger, non? Voilà.
Donc c'est une sacrée décision dans la vie quand même. Vous avez quitté tout pour...
Tout quitté, oui. Oui, oui, j'ai tout quitté pour faire cette formation. Et puis, moi, j'attendais en plus la naissance du bébé à ma petite sœur qui est née lundi matin. Donc, bon, je viens d'être tati pour la première fois. Et alors, pour moi, ça a été un déchirement quand même aujourd'hui de partir. Ouais. Donc là, je pense qu'elles vont m'accueillir, m'installer, me montrer ma chambre. Alors, je sais pas s'il y a un côté pour garçon. Non, c'est mixte. Ok. Ah, et oui. Mais pourtant, j'avais un appartement magnifique, j'avais tout ce qu'il fallait.
Vous vous interrogez, là, en fumant votre cigarette, sur, ouais. En regardant la voie ferrée qui est en face de nous, sur est-ce que j'ai fait le bon choix, est-ce que j'ai pas fait le bon choix ?
Oui, exactement.
Non, mais je pense que vous pouvez y aller. Hein.
Ah oui ? Non, vous pouvez rentrer. Alors, on va faire les papiers pour l'entrée, et puis je vais vous expliquer un peu où vous êtes tombé. Okay.
Donc, ici, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les foyers déjà, ou pas du tout.
Non.
Donc, là, vous êtes dans un CHRS, c'est un centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Hein. Le matin, on réveille les gens à partir de 7h moins le quart, 7h. Vous avez jusqu'à 7h30 pour le petit-déj. Après, de 7h30 à 8h, on fait tous le ménage ensemble. À 8h, le bâtiment ici, l'accueil, ferme jusqu'à 11h30. De l'autre côté, vous avez le foyer à proprement parler qui, lui, est ouvert. Donc là-bas, vous pouvez boire le café, vous pouvez regarder la télé, voilà.
Oui.
Donc le midi, c'est repas à midi et quart.
Okay.
Donc c'est pareil, il faut essayer d'être là 5 minutes avant pour mettre la table. Le soir, on mange à 19h15. Donc pareil. Et après, la fermeture des portes se fait la semaine à 22h30.
Oui.
Le week-end, 23h30, minuit. Le week-end, vous n'êtes pas réveillé le matin. Hein, là, vous faites comme vous voulez. Le week-end, c'est plus relax.
Mmh, okay.
Voilà. Okay. Au niveau du règlement, pas d'alcool dans les chambres, pas de drogue.
D'accord.
Voilà. Donc, vous êtes accueilli pour une durée de 6 mois.
Mmh.
Donc, sachant que, bien sûr, si vous avez une solution qui se dégage avant, c'est tant mieux. Alors, ça, maintenant, c'est à la mairie. Voilà, c'est tout bon. Alors, je vais vous montrer la chambre. Et puis,
oui.
Dernier détail assez important, vous n'avez pas la clé de votre chambre à l'accueil. C'est nous qui avons les clés.
Oui.
Donc, il ne faut pas hésiter à venir au bureau. On ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme. Mais il ne faut surtout pas hésiter à demander. Parce que quand
d'accord.
on a des affaires, des papiers, tout ça important, ça fait partie de notre travail. Il ne faut pas
d'accord.
avoir peur de déranger ou quoi que ce soit.
D'accord.
Vous êtes dans la 10. Vous voulez un coup de main pour les sacs ? Voilà, donc là, c'est à partir de là, à peu près, le coin des femmes. Vous voyez, donc on a bien marqué ici, sanitaire réservé aux femmes, n'est-ce pas ? Douche et toilette.
Mmh.
Et puis, je vais ouvrir.
Excusez-moi.
Ah,
c'est ma sœur.
Ah bah, allez-y, décrochez, je vais aller vous chercher le serviette de toilette. Vous avez besoin ?
Non.
Non, vous avez ça.
Voilà, voilà comment vous êtes accueillis et voilà comment se passera votre vie pendant votre séjour dans ce CHRS. Donc, Osez à Bourg-en-Bresse. Je rappelle que ce centre est menacé et se bat pour sa survie. Alors, il n'y a pas, évidemment, on s'en doute, mais un seul profil. Là, on a cette jeune femme qui arrive, bon, un peu égarée, mais évidemment, la détresse humaine, je le disais, se décline sous des angles tout à fait différents, des parcours tout à fait différents. Et voilà une rencontre avec Madame Tabet.
Oui, moi, dès que je suis venue, c'est Sylvie Michaud, elle m'a tendu la main. Ma famille est en Bérieux, mais ils n'ont pas bougé le petit doigt pour moi. Mais elle me comprend. Même en regardant dans les yeux, elle sait si je suis heureuse ou malheureuse. Elle le sait. Pour moi, c'est beaucoup. J'en rêvais là-bas. D'avoir une amie française, une amie sur qui je peux compter. Même là-bas, même je ne pouvais pas m'exprimer. J'étais comme une Française. À l'âge de 4 ans, je suis venue ici. Je parle bien français, j'ai été à l'école en France. J'allais en colonie de vacances. C'était bien. J'ai travaillé à l'âge de 14 ans jusqu'à... Vous voyez, j'ai travaillé 20 ans à le Jabi, au soutien-gorge. J'étais une fille pleine de vie, pleine de... Ouais. Ah oui, je vivais, ouais. On vivait bien. Une fois que je me suis mariée avec cet homme, tout a basculé. Tout a basculé. Je suis redevenue une autre. Moi, j'aurais voulu me marier avec un Français. Mes parents m'ont forcé, ma mère a dit à mon père, « Marie-la, sinon, elle va partir. » Moi, j'aurais voulu vivre une autre vie. C'est mes parents, en ce temps-là, dans les années 70, on ne faisait pas ce qu'on voulait, nous. C'est ce qu'ils voulaient, eux. Et moi, ma vie, elle a été foutue comme ça. On s'est habitué à cette personne-là. On s'est habitué, on ne lui veut pas du mal, on ne veut pas le laisser. Et c'est encore pire, maintenant qu'il a la jambe coupée, je ne peux pas l'abandonner. J'ai peur, j'ai trop peur de Dieu. J'ai peur de Dieu. J'ai peur que je les laisse tomber et que Dieu me le fera payer. Et après, quand je me suis mariée, mon mari il m'a emmenée. J'avais 35 ans, mais j'étais obligée de suivre mon mari. Ma famille m'a obligée de suivre mon mari. Ils m'ont dit, tu es obligée de suivre ton mari. Non, je ne veux pas y aller, je ne veux pas... Non, il faut suivre ton mari. Et je suis partie. Et ils m'ont dit, si tu es malheureuse, nous sommes là. Mais non, ils n'ont jamais été là pour moi. J'ai été malheureuse, mais ils n'ont pas bougé le petit doigt pour moi. Et je leur en veux. Je leur en veux. Je leur en veux beaucoup.
Est-ce que vous leur adressiez des messages de secours ?
Oui, beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup pendant 20 ans. La première année, la deuxième, la troisième, j'ai attendu, attendu, attendu que quelqu'un me tende la main. Et puis comme j'ai vu que je coulais, alors je me suis dit non, il faudrait que tu fasses surface et puis que tu fasses ta vie. Et c'est là que je suis venue là, j'ai couru, elle peut vous le dire. Madame Michaud était avec moi à la préfecture. Ils m'ont dit que vous n'avez aucun droit ici. Tous mes droits sont perdus. C'est ça, mon histoire. Mon histoire, c'est ça.
Vous portez toujours le foulard depuis toujours, vous portez le foulard?
Non, je n'ai pas porté le foulard jusqu'à... Là-bas, je portais même le voile. Ils me faisaient mettre même le voile, comme ça.
Mais ça, c'est quelque chose que vous n'aimiez pas?
Bien sûr que non. Qui voudrait se mettre un voile? Ouais, parce que je vivais dans un petit où toute la famille de mon mari se connaissait. Alors j'étais obligée, quand vous voyez toutes les femmes, oh non, puis pas vous. Alors ça c'est une insulte envers votre mari. Regardez, elle fait pas comme nous, elle se croit qu'elle est française, elle se croit comme ça. Enfin, c'est une insulte pour mon mari, ouais. Mais j'étais pressée de venir ici. Puis une fois que je suis là, j'ai rien que le foulard parce que... C'est une habitude, mais si je pouvais, je l'enlèverais.
Quand vous étiez jeune, vous portiez le foulard ?
Non, bien sûr que non. On était jeune, on avait la mini-jupe, on ne savait pas qu'un jour viendrait où je serais comme ça, non.
Vous portiez la mini-jupe ?
Oh oui, avant, oui, dans les années 70, oui. Mais quand je suis allée là-bas en Algérie, c'est comme si j'étais dans un trou. Alors j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai dit à mon mari, tu me suis ou tu... Et maintenant... Je suis venue, j'ai 55 ans, je suis venue réclamer mes droits, mais ils ont dit, tu n'as pas de droits. Même ici, ils me donnent jusqu'au mois de mars. Et après, j'ai Martine qui me l'a dit tout à l'heure, qu'après le mois de mars, on ne te reprend pas. Après le mois de mars, tu regardes où tu veux y aller. Mais on nous a dit que vous n'avez aucun droit. Là, au mois de mars, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus quoi faire, je ne sais pas. Est-ce que je vais continuer ou je vais baisser les bras? Je ne sais pas quoi faire. Alors je leur ai dit, aidez-moi. Là-bas, je ne suis pas chez moi. Ici, je ne suis pas chez moi. C'est où chez moi? C'est où? Voilà.
Non, la rate pas eu ce matin. En particulier suite à la relève de ce matin.
Non, non.
Non, t'as pas eu.
Il y a juste le 115 qui a plu, le reste, vous comprenez pas les deux.
Bon, alors, donc, ce matin, ce qu'elle m'a dit. Donc, tu as. Aruna, donc, est partie à l'hôpital, hein, avec la cure qui suit derrière. Donc, et, ce que m'a dit Hélène, c'est qu'il a fait bien son ménage, mais qu'il faut repasser un petit peu derrière. Sinon, donc, eux s'installent aujourd'hui dans la 11.
Ouais.
Ils sont prévenus, la 11 est déménagée, là, de ce côté. Donc, on les a prévenus ce matin. Alors, petit Michael, ce que m'a dit Hélène, c'est qu'il a été accueilli en asile de nuit dans la 5 de ce côté ici. Et que ça s'est très bien passé. Donc elle l'a vu, elle l'a rencontré, et elle lui a dit que si tout se passait bien, donc elle l'a dit qu'il faudrait la prolonger ce soir, mais que si tout se passait vraiment très bien, il pouvait être prolongé jusqu'à lundi matin. D'accord ? Donc tu le vois aujourd'hui, tu le prolonges une nuit, et tu... elle lui a dit ça. Lui, je suis en train de lui faire chauffer son repas, parce que je pense qu'il commence tôt, donc je viens de lui mettre à manger là.
Ouais.
Et alors, donc, pour Andrej et le fameux Lucas, tu te rappelles qu'on avait mardi soir dans le bureau, hier soir, odieux, c'est-à-dire regardant tout ce qui est tout ce qui a moins de 25 ans en tant que nana, et quand Hélène lui a demandé d'arrêter de rire des nanas et d'arrêter de se moquer, ils ont dit, bah nous, on a bien le droit parce qu'elles sont jolies, avec, dès qu'une nana passe, il la pose, parle en polonais, ils éclatent de rire. Donc, c'est arrêt de l'asile de nuit. Voilà. Bah écoute, c'est tout ce que j'ai à te dire. Elle, ce matin, quand je suis arrivée, m'a dit, j'ai une très bonne nouvelle, mais je ne l'ai pas revue.
Bon. Donc j'ai une place en asile de nuit, 6 mois.
Bon. Voilà la relève.
Allô ?
Bon, les clés.
Oui. T'as l'accueil avec moi ?
Ouais.
D'accord.
Voilà la relève, voilà les... le travail des, mais le travail des travailleurs sociaux, mais qui se limite pas à, surtout dans ce centre-là, à Bourg-en-Bresse, l'association Osée, qui se limite pas à une gestion comme ça, mais qui depuis 30 ans a mis au point une certaine façon de travailler, d'abord aussi dans la gestion de l'association, qui est très proche de l'autogestion, ce qui ne plaît pas trop à la tutelle, à la DAS, et puis dans la façon, dans les relations avec les résidents, l'ouverture du centre 24 heures sur 24, etc. etc. Donc il y a une tension qui s'est installée et qui s'est traduite par une réduction des budgets, et aujourd'hui cette association donc se bat et lutte contre son asphyxie. On en apprendra plus demain sur cette lutte. Là, ce qu'on avait voulu aujourd'hui, ce qu'on voudrait aujourd'hui, c'est encore vous faire entendre et vous présenter ceux qui y passent quelques jours ou quelques semaines, ceux qu'on appelle les résidents.
Tu manges en horaire décalé, tu manges pas exactement...
Oui, parce que je travaille et puis j'ai pas le temps pour rentrer pour l'heure. Je travaille chez Hervé. J'ai commencé à un contrat d'intérim. C'est une entreprise industrielle, Renault. Ils font des camions et tout.
T'as les yeux éclatés, quoi.
Ouais, je suis fatigué un peu. Parce que depuis 3h du matin, j'ai pas dormi. Ils m'ont pas encore donné le contrat parce que ils m'ont appelé vite fait. Il faut que tu vas sur Renault pour travailler. Et puis, je sais pas. Ils m'ont donné combien de contrats. Ça dépend. 3 mois, 4 mois, ça dépend.
Ils ont rien signé là ?
Non, pas encore. Ouais, c'est ça la vie. Hein. Ils prennent que des intérimaires. Pour l'embauche, ben j'espère. Hein. Si quelqu'un qui est embauché, ben il est tranquille. Hein. Au moins, il pense à sa retraite et tout. Et comme nous, intérimaires, tu vas toucher ton chômage, puis après, si tu ne trouves pas de boulot.
Puis... Et comment ça se fait que tu es au foyer alors ?
Ben, en fait, j'étais sur Montpellier avant. Et puis sur Belfort. J'étais là-bas, j'en ai resté 5 ans là-bas.
Mais pourquoi t'es venu à Bourg-en-Bresse de Montpellier exprès pour trouver du boulot?
Ouais, pour trouver du boulot, ouais, pour chercher du boulot, parce qu'en fait, il n'y a que des travaux publics, des bâtiments et tout. Vous voyez, moi, je suis mince, voilà, je ne peux pas apporter du ciment et puis rester presque un an là-bas. Ouais. J'ai un pote qui venait ici, puis voilà, il m'a appelé pour travailler, puis il m'a dit, c'est une ville qui est spécial pour les industries, et puis voilà, et je travaille avec lui. Ça va. Le premier jour, j'étais vers la gare. j'étais vers la gare. Je suis venu ici, bah, depuis que je suis venu, je suis là. Un mois ou 20 jours, c'est ça. Et voilà, si je trouvais un studio ou quelque chose, je reste pas ici, parce que j'ai pas l'habitude de faire, jamais été dans un foyer. Là, j'ai pas de dette, j'ai rien. Moi, je m'occupe de personne. Moi, je suis comme ça, je chante. Si je travaille pas, je mange avec eux, je fais le ménage avec eux. C'est tout, je m'occupe de personne, parce que les problèmes, ça suffit, comme on dit. Ouais. Et je suis fatigué, là, je peux aller dormir, là.
Ouais.
Michael, il a autre chose à te proposer. Tu écoutes 5 minutes ou
pas?
Il a l'hôpital Ferrière. Tu sais que t'as 4 places là-bas maintenant, avec le 115. Bon, et ben voilà, bah, c'est ce qu'il a à te proposer. Donc, qu'est-ce que tu lui dis à Kevin au 115? Voilà, essuie-toi déjà le nez. Qu'est-ce que tu lui dis à Kevin, oui ou non, pour le Flérias?
J'ai encore droit à cette nuit, j'ai pas monté à pied jusqu'à Flérias, là, je suis pas une salope.
T'es à 10 minutes de Flérias, Michael.
Non, mais attends,
non, je suis pas une pute. Va arrêter de me prendre pour un cagou.
Oh.
Qu'est-ce qu'on dit au 115?
Ta mère, je préfère dormir dehors.
Tiens, alors, dis-lui.
Ah, oui.
J'ai embêté personne parce que j'ai emmerdé les soirs. Parce qu'on n'a pas vu de la journée. Parce que j'ai embêté personne, je dois t'arriver la soirée.
C'est
compliqué. J'ai on vient me voir, dégage-moi.
Tu sais comment on fonctionne, tu découvres pas ça d'aujourd'hui. Hélène t'a prolongé ce matin parce que ça s'était bien passé hier soir, seulement t'as pas vu. Donc nous, ce soir à 6h, on s'est dit, Michael, il revient pas.
On a arrêté vos 10 minutes, arrêtez de prendre, arrêtez vos trucs de bord, quand vous restez de boisson, arrêtez. Et on me cassait le couille, c'est bon. Emmène-moi, j'ai pas traversé jusqu'à Ferrières, faire tout le chemin de Bourg-en-Bresse. Emmène-moi. Je suis pas le cacou, tu viens de dire que j'ai signé pour 2 nuits, j'ai encore 1 nuit, j'embête personne.
Mais je sais qu'il n'y a pas de chambre là.
Bah ouais, tes belles paroles, tu penses que lui, le journalisme de couche, je l'encule.
Il n'y a rien à voir dans le truc, le journaliste.
Je l'encule.
Oh, arrête, c'est bon. C'est bon, t'en passer une là,
ça voilà, vas-y, arrête.
En plus, tu rentres, t'es alcoolisé, tu sais que c'est pas comme ça que ça se passe ici.
Je suis pas alcoolisé, c'est comme moi, j'étais tranquille, j'ai droit à 2 nuits simplement.
Mais enfin, et regarde comment tu rentres ce soir, Michael. Je suis désolée, mais le réveillon de Noël, tu l'as fait très très bien. Tu es capable d'être très très bien aujourd'hui, regarde.
Juste qu'on commence à rien pour me dire, écoute, t'as signé 2 nuits, t'as fait 1 nuit, le deuxième, tu es.
Quand on est bourré, on est bourré. C'est pas de honte, simplement on gère les trucs, Michael, tu sais bien que quand ça se passe pas bien, ça se passe pas bien.
Bah, c'est venu, je m'en bats le cul.
Oui, tu t'en bats le cul. Donc arrête de parler comme ça, hein, parce que
quand on a... Je suis de Marseille, je connais les immigrés, tu fais tout ce qu'ils
font. Bon, il y a une chambre à l'hôpital, écoute-moi bien. Si tu fais chier alors que t'as un lit, tu sais très bien que tu vas te griller au niveau des ambulances et que tu vas te griller ici. T'as pas intérêt à te griller ici. Parce que quand tu es très bien, Michael, ça se passe très bien et on est toujours ravis de t'accueillir. Alors putain, réfléchis 2 secondes. Parce que si tu n'y vas pas, le 115 ne te refilera plus de nuit, non plus ici. Alors tu y vas dormir, parce que eux, ils sont pas dans
les... Ah vas-y, ça va être bon de venir.
Là, c'était le 115, donc ils veulent savoir maintenant.
Oui, mais bien sûr qu'ils veulent savoir, parce qu'il y a plein de gens qui dorment dehors, Michael. Hein.
Ils ont plein de coups de fil, donc ils ont besoin
de
savoir.
Non, mais enfin, Michael, on n'est pas ta bonne.
Je n'emmène pas, Michael.
Mais on n'est pas ta bonne.
C'est moi encore qui va marcher.
Parce que de toute façon, vous êtes tous à vouloir une chambre quelque part. Donc il faut bien aller voir tremplin, voir plein d'air ici.
Oui, j'y vais, mais tu m'emmènes.
Bon, ben, je propose que on arrête. Tu y vas et c'est tout. Maintenant, on clôt la discussion, on a autre chose à faire. Allez, hop.
Tout ça parce que je suis pas venu manger à midi, c'est ça?
C'est pas par là, Feria, hein, c'est de l'autre côté.
Ah, je dois aller faire rien, merci.
Bon, et bah tu y vas.
On se reverra pas.
Je les appelle.
Bonjour.
Allez, hop.
C'est déjà venu, moi, hein, on va pas trop traîner, c'est un mois, parce que... Donc après, quand c'est à peu près calme, on fait un peu... en fait, on fait plus ou moins des rondes dans les bâtiments, pour regarder que les portes soient bien fermées et tout ça. Et puis après, ben, on fait une veille couchée, comme on dit, donc... voilà, on peut s'assoupir, mais bon, en général, de toute façon, il y a plein de bruit tout le temps.
Parce que bon, il y a des gens qui vont aller aux toilettes, donc on va entendre les portes, c'est quand même assez bouillant. Puis il y a plusieurs personnes qui travaillent en usine, donc qui se lèvent quand ils sont le matin assez tôt. Donc ça a tendance toujours à faire un peu de bruit aussi. Ça fait pas des très longueurs. Ah. Voilà. Merci. Bonne nuit. À demain. J'ai pas réussi à une couverture, je crois que je me rends. Je vais pas m'en aller. Excusez-moi, couverture?
Couverture, c'est hot.
Oui, mais je la mets là, au okay. Cas où, hein? Bon, oui, notamment un résident, Alain, il navigue toute la nuit. Donc là, il va se lever, puis il va commencer à naviguer, quoi. Donc il sort sur le banc, fumer sa cigarette, il parle tout seul, donc tu l'entends. Donc tu râles, après il re-rentre, il fait ça jusqu'à 5h, 5h30, il se recouche et après quand on le réveille à 7h, ben, il ne peut pas décoller. Donc tout est un peu particulier avec voilà. C'est quelqu'un qui à une époque, pas d'ailleurs en 2005 quand on a fait notre précédent mouvement sur le square, il était dans la rue à l'époque. Il avait un talkie-walkie toujours avec lui et il était en direct avec Dieu. Ça va beaucoup mieux maintenant. Bon, on va éteindre l'ordinateur parce que je pense pas qu'on ait de nouveau quelqu'un ce soir. Voilà. Déjà ça. Tiens, Chantal, je t'amène. Je pense pas que ça ait été noté l'adresse d'Aruna.
Donc là, dans votre local, vous avez la liste des agences de travail intérimaires sur Bourg-en-Bresse.
Bon, à Bourg, de toute façon, il y a du boulot en abattoir, que ça soit poulet ou volaille. Donc, elles sont toutes les deux dans la zone, là. Donc, les gens sont à côté. Et sinon, il y a du boulot aussi à Renault Truck. Ils embauchent énormément d'intérimaires, mais un nombre...
Alors, Renault Truck, c'est vraiment... Mais ça, c'est la totale. Ils savent vraiment faire... Ils ont des périodes de travail. Donc, ils embauchent, je sais pas, mais 400 ouvriers. Voilà, hein. Il y a 10... Moi, Renault, je suis de Bourg-en-Bresse. Il y a 10 ans en arrière, 80% du personnel, c'était du vrai personnel. Enfin, c'est des... Aujourd'hui, il y a, je crois, Henri me disait l'autre jour, je crois qu'il reste 13% de vrais CDI. Oui. Ils ont un contrat de 15 jours. Par contre, ils sont plutôt bien payés, 15 jours, oui, voilà. Prolongés. Nous, on en a un, là, ça fait 4 mois. Ils croient tout le temps, tous les jours, comme les abattoirs qui va avoir un CDI. Nous, on leur dit que c'est bon, ça va pas se faire et tout.
On peut même pas absorber toutes les demandes qu'on a de jeunes, notamment, qui viennent pour travailler à Renault Truck. Parce qu'ils mettent en fait des annonces sur Internet, donc il y a des gens de la France entière qui viennent et qui arrivent, qui n'ont pas de logement. Et la plupart du temps, c'est des jeunes pour qui c'est un premier boulot, donc ils n'avaient aucun argent de côté pour se prendre même une chambre d'hôtel au mois, quoi. Donc certains dorment dans leur voiture. En général, ils s'accrochent quand même. Oh, ça fait... C'est Morgane, j'en suis sûre.
Merci à tous, merci à Gilles, Sylviane, Martine, Claire, Carole, Jean-François, Yamina, Sylvie, Chantal et tous les éducateurs et tous les résidents du foyer d'urgence de Bourg-en-Bresse. Pour tout savoir encore plus en détail sur eux et surtout pour les soutenir, ils ont un mail qui est www.oser.lefar.org. Le phare, ça s'écrit L-E-F-A-R, donc je recommence, www.oser-lefar.org. Ils ont également une adresse pour l'auditrice du début de bah oui, sur le répondeur, elle dit, moi j'ai pas le 3W, ça me dit rien du tout. Et bien ils ont une adresse, CHRS Le Phare, 5 bis rue des Crêts, CRE, accent circonflexe, TS 01000, c'est-à-dire 0000, Bourg-en-Bresse. Voilà. C'était un reportage de François Ruffin. Aujourd'hui, Éric Mainviel et Dimitri Gronoff étaient à la technique. C'est Yann Chouquet et Raphaël Mouderde qui ont réalisé cette émission, assistée de Charlotte Perry. Et Christophe Imbert se tient près du répondeur dans l'attente de vos messages. 01 56 40 37 37. Et puis, vous pouvez retrouver toutes les informations concernant aussi les repères des amis de La Passe et J'y suis sur le site de France Inter, à la rubrique émission La Passe et J'y suis, ou sur là-bas.org, www.la-bas.org réclame.